Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous Olivier Roucan, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, enseignant en sciences politiques, chercheur associé au Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. Alors le week-end a été très studieux, il est encore, alors nous parlons pour Michel Barnier puisque le Premier ministre planche sur le discours qu'il prononcera après-demain après-midi à l'Assemblée nationale. Alors on connaît déjà la méthode Barnier, faite à base de être à l'écoute, faire travailler les gens ensemble. Ce discours de politique générale doit permettre de connaître la ligne Barnier, autrement dit son projet politique. Quelle politique, laquelle d'ailleurs, dans un contexte budgétaire alarmant. LFI déposera une motion de censure. Quoi que dise le Premier ministre, comme l'a expliqué Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône et coordinateur du parti sur France Inter.
Nous allons déposer une motion de censure pour une raison très simple, c'est qu'il s'agit de rétablir la démocratie et le résultat des dernières élections législatives.
Le RN sera très attentif dans l'hémicycle, comme le disait sur RTL Sébastien Chenu, député du Nord et vice-président du parti.
Nous attendons le contenu du discours de Michel Barnier parce que jusqu'à présent, nous ne savons pas trop où Michel Barnier veut emmener les Français. C'est un Premier ministre qui n'a pas de légitimité démocratique, qui n'a pas de majorité. Nous n'avons pas souhaité censurer Michel Barnier a priori. C'est-à-dire que nous ne soutiendrons pas la motion de censure de la France insoumise qui sera déposée dans les jours qui viennent, quoi qu'il en soit. Nous, si nous censurons Michel Barnier un moment, ce sera sur du concret. Ce sera parce qu'il sera allé trop loin contre l'intérêt des Français ou pas assez loin dans l'intérêt des Français. Et ça, on va pouvoir le voir au moment du budget.
Sébastien Chenu du RN qui adopte une posture bienveillante à l'endroit du Premier ministre, alors qu'un de ses ministres, et pas des moindres, celui de l'économie, s'en est pris au Rassemblement national. On écoute la critique d'Arnaud Armand, puis Marine Le Pen, puis le correctif apporté par le même Arnaud Armand.
Il ne faut pas commencer par dire avec qui on va jamais travailler, pour peu qu'il soit dans l'arc républicain. Le Rassemblement national, contre lequel nous avons été élus, avec lequel, face auquel nous avons fait un front républicain, n'y appartient pas.
Nous avons juste le budget qui arrive. Je pense que le Premier ministre doit aller expliquer à l'ensemble de ses ministres quelle est la philosophie de son gouvernement, car il semblerait que certains n'aient pas encore totalement compris.
Ce sujet est clos. La réalité, c'est que nous travaillons avec l'ensemble des forces politiques parce que dans la situation que nous vivons, ce qui prédomine, c'est le besoin d'écoute, de considération et bien sûr de travail.
Alors si le ministre de l'économie a avalé son chapeau, c'est parce que Michel Barnier a appelé Marine Le Pen, puis a recadré publiquement son ministre par le biais d'un communiqué. Olivier Roucan, incroyable hein, ce premier couac au sein du gouvernement qui montre bien que Michel Barnier a besoin du RN.
Oui, dans tous les cas, l'opinion aura retenu cette pression qu'est en mesure de faire peser le Rassemblement national sur l'exécutif et, je dirais, dès le choix du Premier ministre, puisque Emmanuel Macron, on le sait, a sollicité Marine Le Pen, qu'il y a eu des échanges. Bon, est-ce que le risque d'un Rassemblement national qui censurerait ou qui créerait d'énormes problèmes à cet exécutif est avéré. Ou est-ce que ce risque est-il surestimé? On peut se poser la question. La pression est là. Mais, par exemple, sur une motion de censure, lorsqu'il y a vote, cela voudrait dire que le Rassemblement national et LFI votent la même motion de censure. Ce n'est pas arrivé fréquemment, c'est arrivé sur la question des retraites, c'est vrai, mais pour le reste... Et puis, dans une motion de censure, ceux qui s'abstiennent votent contre la motion de censure. Donc les conditions d'adoption d'une motion de censure limitent quand même un peu le risque qui nous est présenté comme étant majeur, avéré, et qui fait qu'un Premier ministre tout nouvellement nommé, en effet, sollicite la présidente d'un parti de droite extrême.
Mais au-delà de cela, ça montre que la marge de manœuvre de Michel Barnier est extrêmement réduite.
Alors, elle est réduite, oui, tout à fait, elle est réduite, mais pour des tas de raisons et pas uniquement pour le rassemblement, du fait du Rassemblement national. Elle est réduite parce que la composition avec 12 groupes à l'Assemblée nationale d'une majorité va être très aléatoire, elle va bouger. et elle est réduite, on le sait, parce que eh bien, les soutiens de ce gouvernement sont faibles numériquement, mais ils sont aussi, et c'est tout aussi important, je dirais, faibles parce qu'hétéroclites. Et vous parlez du couac avec le RN, mais il y a eu d'autres couacs à l'intérieur du gouvernement sur des questions différentes. Intérieur, justice, etc.
Et le budget. Et on y vient dans un instant. Parce que la première montagne que le Premier ministre savoyard va devoir gravir, c'est celle du budget de l'État pour l'année prochaine. Michel Barnier qui a déjà dit ceci.
Je ne vais pas exclure dans l'effort national qu'il faudra faire pour redresser la situation, je ne vais pas exclure que les personnes les plus fortunées participent, comme certains d'entre elles, ils font partie de la communauté nationale, participent à cet effort.
Membre du Parti Les Républicains comme le chef du gouvernement, Michel Tabarot est questeur de l'Assemblée nationale. La députée des Alpes-Maritimes était sur France 3 en fin de matinée.
Nous sommes passés à 3 200 milliards de dettes et à un déficit de plus de 6% et nous sommes rappelés à l'ordre par l'Europe. Donc nous avons une situation financière catastrophique. Il y a des économies conséquentes dans différents points, et particulièrement la fraude sociale, l'AME, l'absentéisme, les jours de carence, enfin, tout un tas de sujets que nous avons évoqués depuis longtemps, puisque nous avons déjà présenté un contre-budget l'année dernière avec 25 milliards d'économies.
Thierry Breton, ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie, était lui à la mi-journée sur l'antenne de la chaîne Info.
La France est champion olympique, c'est-à-dire champion du monde, en matière de dépenses publiques, et le prélèvement obligatoire. Donc si ça marchait, les deux, ça se saurait. Malgré ça, on a 6% de déficit cette année. Vous allez avoir 180 milliards pratiquement de dépenses de plus que ce que vous gagnez. C'est un trou gigantesque. Donc le problème, bien entendu, c'est d'abord de s'attaquer à la dépense publique. Lorsque, en 2005, je suis appelé par Jacques Chirac, président de la République, à Bercy, on a lancé 1000 chantiers. C'est faisable. On n'a pas touché à l'impôt. Le sujet est tellement aujourd'hui en France de reprendre en main notre dépense publique pour une dépense plus efficace, moins onéreuse pour nos concitoyens et pour nos dépenses publiques pour notre budget.
Les oppositions ont également des idées pour ramener un peu d'ordre dans les finances publiques. Manuel Bompard, le coordinateur de LFI.
Les pistes de nouvelles recettes dont parle aujourd'hui M. Barnier sont à hauteur de 7 à 8 milliards, si j'en crois l'article qui a été publié par le journal Le Monde ce matin. Donc les 52 milliards restants, je pose la question de savoir où M. Barnier a l'intention d'aller les chercher. La réforme fiscale que nous proposions, elle conduisait à une baisse ou à un même niveau d'impôt pour 92% des Français et des Français, et une augmentation d'impôt pour les 8% les plus riches. Pour vous donner un exemple, c'est une personne célibataire qui gagne 4000 euros net par mois, qui devrait, au-delà de ça, elle devrait voir sa contribution légèrement augmenter, mais l'effort principal, bien évidemment, il serait concentré sur les 1%, et en particulier sur les 0,1% des plus riches. Les 0,1% des riches payent en proportion de leurs revenus, moins d'impôts.
Et maintenant, ce que dit Sébastien Chenu, député du Nord, vice-président du RN.
Dans le projet de budget, aujourd'hui, les deux budgets les plus en hausse, la contribution à l'Union européenne, avec plus 8% de contribution de la France au fonctionnement de l'Union européenne. C'est-à-dire que la France va donner 25 milliards d'euros par an. Là, on se dit stop, il faut arrêter. Et puis, les énergies intermittentes. Là, c'est le pompon. C'est-à-dire qu'on subventionne de plus en plus l'éolien en mer, pour des millions d'euros. Nous considérons que cette énergie, non pas renouvelable, mais intermittente, coûte très cher aux Français, apporte très peu de résultats. Donc, évidemment, là, il y a des sources d'économie.
Alors, ce budget, Olivier Roucan, du Centre d'études et de recherches de sciences administratives et politiques. Ce budget est le premier moment de vérité pour le nouveau gouvernement.
Oui, parce que c'est un texte foncièrement politique. D'ailleurs, on dit que lorsqu'on vote un budget, lors du vote, on comprend qui est dans la majorité et qui est dans l'opposition. Bon. Donc oui, c'est un acte politique et d'ailleurs parlementaire. Historiquement, les parlements se sont signalés dans l'histoire en votant le budget et en acquérant davantage de pouvoir dans ce vote. Ça a été réduit au XXe siècle, mais enfin, il faut quand même que les assemblées votent ce budget. On sait que le délai est très court. Et donc, on va parler du budget, mais il y aura une loi de finances rectificative. Donc, c'est aussi pour Michel Barnier, la question financière et budgétaire, une épine dans le pied durable. Mais en tout cas, plusieurs textes vont poser problème.
Ça va être l'illustration concrète, au-delà des mots, au-delà des phrases, l'illustration concrète de ce qu'il veut pouvoir dérouler au cours des prochaines semaines et des prochains mois.
Oui, puisque à partir des lignes budgétaires, bien nous savons quelles sont les priorités en termes de politique publique. Alors on commence à se faire une idée, on voit bien que la question de la sécurité, de l'immigration est une priorité. On sait que le Premier ministre l'avait dit, la santé, les services publics en sont une autre, mais je dirais que dans les deux cas, il faut de l'argent. Le ministère de l'Intérieur, par exemple, ainsi que la justice ces dernières années, ont eu plus d'emplois, ont eu des budgets à la hausse. C'est pas pour autant que la qualité des politiques publiques s'est améliorée grandement. On le voit d'ailleurs sur la question parfois de l'immigration et du manque de moyens dans les préfectures pour traiter les étrangers. Sur la santé, sur les services publics dans les territoires, vous voyez la même chose. Donc, on a l'impression quelque part que les Français, à l'occasion de la nomination de Michel Barnier, prennent conscience des lacunes de la réforme de l'État depuis une vingtaine d'années. Parce que si aujourd'hui l'État est moins efficace et efficient dans sa dépense publique, c'est parce que, je dirais, il a été mal réformé. Et ça, c'est un vrai thème de travail, parce que vous avez des personnes qui vous expliquent que l'État n'a pas été réformé. C'est faux. Ça fait 30 ans que l'État a engagé des tas de révisions. Il y a eu plusieurs noms de modernisation. Mais les résultats ne sont pas là. Donc il faut aujourd'hui inventer une nouvelle façon de réformer l'État et notamment de gérer son personnel.
Les chiffres vont mieux parler que les mots et les phrases. Je le disais, dans le journal La Tribune d'aujourd'hui, 27 députés macronistes s'opposent déjà à une augmentation des impôts. On entendait Michel Barnier en parler tout à l'heure. Cela tire donc déjà à U et à Dia au sein même de la coalition gouvernementale, ça promet.
Disons que on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un texte très politique. Et donc, au sein de la majorité, cette question du budget va être très discutée, va peut-être être plus discutée que ce que nous avons jusque-là observé au sein de la Macronie, même s'il y avait déjà eu des tensions. Peut-être qu'on va pouvoir faire des comparaisons dans quelques temps avec parfois les frondeurs, ce qui s'était passé du temps de François Hollande. Est-ce que ça ira plus loin ? Tout à l'heure, Gérald Darmanin a dit qu'il aurait du mal à soutenir, me semble-t-il, ce ne sont pas les termes exacts, mais un budget qui augmenterait les impôts. Donc on voit bien qu'au sein de cette coalition, il y a des tensions qui vont s'exprimer beaucoup plus. Mais ça, c'est le jeu parlementaire que nous retrouvons avec cette absence de majorité claire. On va davantage être informé des négociations qui sont inhérentes à la vie parlementaire.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplain.
Hier avaient lieu à Versailles les obsèques de Philippine, cette jeune femme de 19 ans assassinée dans le bois de Boulogne. Jeudi, Emmanuel Macron avait exprimé l'émotion de toute la nation. Après un crime odieux, avait-il dit, et estimé qu'il fallait chaque jour mieux protéger les Français. Un meurtre qui lance donc un débat sur le parcours du suspect, condamné pour viol, libéré au mois de juin, qui était en instance d'expulsion vers son pays, le Maroc. Écoutez ce qu'en disait tout à l'heure Manuel Bompard de la France Insoumise.
Ça doit nous poser la question de savoir comment on peut accepter qu'une personne, quelle que soit sa nationalité d'ailleurs, qui a été condamnée pour viol, immédiatement à la sortie de prison, se retrouve en quelque sorte en liberté, avec la possibilité de recommencer, sans aucun suivi, sans aucun contrôle. Qu'il y ait eu un dysfonctionnement administratif sur la question précise des OQTF, ça semble être une évidence. Si on ne répond à la question que à travers cette question-là, à mon avis, on omet toute une dimension, qui est la question du suivi en prison, qui est la question du suivi à l'après la prison, la question de comment on empêche la récidive, la question de la culture du viol, de manière générale. Toutes ces questions-là, on peut aussi les poser sans hystérie dans le débat, j'ai pas de difficulté avec ça.
À l'autre bout de l'échiquier politique, le Rassemblement National et son vice-président Sébastien Chenu.
Il faut aujourd'hui savoir comment on acquiert la nationalité française, comment on se maintient sur notre territoire, pour combien de temps, les OQTF, comment on les négocie. Ça, c'est pas forcément une loi. C'est mettre la pression, c'est le bras de fer avec les États. Donc les leviers qu'on doit actionner, c'est évidemment dire à ces pays, on va revoir votre aide au développement. Vous ne voulez pas reprendre vos ressortissants qui commettent des actes de délinquance ou pire chez nous, on va revoir l'aide au développement. Mais nous demandons qu'il y ait un changement à 180 degrés d'orientation en politique migratoire. Et puis bien entendu, ça passera par la gestion de nos frontières. Je rappelle que Jordan Bardella avait proposé qu'on puisse reprendre la gestion de nos frontières intérieures. Pendant quelques mois, c'est ce que font les Allemands. On s'était moqué de nous pendant l'élection européenne. Aujourd'hui, les Allemands sont en train de le faire. La renégociation de Schengen, plusieurs pays y sont prêts.
Quant aux députés, les Républicains, ils viennent de déposer une proposition de loi pour allonger nettement la durée de rétention des étrangers clandestins dangereux. Olivier Roucan, donc, une nouvelle fois, un fait divers devient un enjeu politique. Et là encore, c'est la question des OQTF, donc des gens obligés de quitter le territoire français.
Bon, c'est très technique, c'est-à-dire c'est une question très politique, mais d'une complexité technique et juridique très importante. Et quand vous avez cette question est depuis des années très sensible, très éruptive, elle fait partie de ce qu'on appelle la polarisation, c'est-à-dire que le fait divers et l'émotion saturent complètement pour beaucoup de personnes, pas la capacité, mais dans tous les cas, je dirais, la faculté de compréhension de cette complexité. Et donc, je dirais que dans ce débat récurrent, c'est toujours la logique de l'émotion, c'est toujours la logique, je dirais, de la simplification des choses qui l'emporte politiquement. Alors que techniquement, et c'est là où il y a le hiatus, il faut vraiment entrer dans les règlements, les lois, les circulaires qui en plus ne cessent de changer pour se dire et pour s'apercevoir que l'administration a du mal à suivre à emploi constant les lois qui sont adoptées. Hein, parce que tout ça se règle après dans des préfectures, à l'OFPRA, à la Cour nationale du droit d'asile, qui a un stock de dossiers importants, et puis éventuellement, en bout de chaîne, par une rétention administrative ou une assignation à résidence. Donc c'est ce hiatus entre, si vous voulez, la caricature, la polarisation du débat et la complexité des choses qui est très problématique parce que le citoyen, évidemment, perdu, a tendance à écouter le discours le plus simplificateur.
En tout cas, pour sûr, l'immigration revient en force dans le débat public. Sans doute faut-il s'attendre à une nouvelle loi alors que la précédente n'a qu'une année.
Voilà ce que nous disions. On n'arrête pas de légiférer. C'est vrai pour l'immigration, c'est vrai pour les faits divers et globalement la sécurité. Parce que la loi, faire une loi permet à un ministre et à des parlementaires de devenir visibles et de porter un message politique un peu fort. C'est plus un marqueur, finalement, la loi est plus un marqueur de visibilité qu'une règle qui est censée améliorer l'efficacité de l'action publique, parfois. Et sur ces questions, on peut vraiment plus que se poser la question. Donc, s'il y a une nouvelle loi, alors que la précédente est très récente, eh bien, on pourra, là encore, se mettre un peu à la place des fonctionnaires qui sont censés appliquer tous ces textes. En ont-ils le temps ?
Et cette réforme de la politique migratoire à laquelle il faut certainement s'attendre, est-ce que c'est le ciment ou le facteur de discorde entre l'ERN et LR ?
On a vu sur ces questions les deux électorats se rapprocher. Sur la question migratoire et plus globalement d'une certaine conception de l'identité, je dirais, de la nation et d'une nation fermée, on a vu l'électorat LR se rapprocher de celui du RN et les dirigeants y ont fortement contribué. Rappelons-nous de la campagne de Valérie Pécresse ou même des positions à l'époque de Michel Barnier sur cette question. Donc c'est plus, pour répondre à votre question, un ciment désormais.
Et du côté des macronistes, est-ce qu'il peut y avoir là, on voyait tout à l'heure qu'il y avait du tiraillement peut-être sur le budget et les augmentations d'impôts, oui. Est-ce que là ça peut faire éclater ce bloc central, on va dire?
Alors éclater, ce serait prendre pour les personnes qui s'y risqueraient vraiment un risque très important, mais c'est à mon avis une probabilité de fracture plus importante sur cet enjeu, parce qu'on a déjà vu, alors que la majorité macroniste était relativement unie, lors des lois précédentes, déjà sous Gérard Collomb, que ça commençait, ici ou là dans la Macronie, à se désolidariser hein, sur cet enjeu. Il y a des leaders macronistes qui pensent qu'on est trop sécuritaire en France.
Merci pour Merci. Ces analyses et commentaires, Olivier Roucan. Je rappelle que vous êtes enseignant en sciences politiques et chercheur associé au Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. Dimanche politique à retrouver bien évidemment sur l'appli et sur le site internet de Radio France Internationale.